10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Belle année, bien sûr. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger à mes côtés, je suis entourée de Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, Mathieu.
Bonjour.
L'année 2022 sera l'année d'un choix important pour notre pays, le choix présidentiel. Selon certains, il en va du destin de la France. Moi ou le chaos, proclame-t-il. Alors qu'en est-il vraiment? Quels sont les nouveaux clivages, les nouveaux repères et références dans nos sociétés contemporaines? Votre regard, Michel Onfray, toujours libre, va nous aider à y voir plus clair en ce début d'année. Et tout d'abord, alors que nous allons dans quelques mois vers le scrutin présidentiel, quelle est selon vous la question essentielle à côté de laquelle une telle élection primordiale ne doit pas passer?
Je crois qu'elle a déjà été imposée par Éric Zemmour, c'est la question de la civilisation, du choix de la civilisation. Et quoi qu'on pense d'Éric Zemmour, pour, contre ou je ne sais quoi, il a estimé que on ne devait pas chercher un Premier ministre pour une Europe maastrichtienne et qu'il fallait un président pour justement présider aux destinées d'un vieux pays, dans un vieux continent, et qu'il fallait penser en termes de civilisation, c'est-à-dire en termes de longue durée. La plupart du temps, les hommes politiques pensent en termes de très courte durée. C'est vraiment la durée du mandat, 5 ans, et puis éventuellement 2 fois 5 ans pour Macron. Mais lui propose de penser pour les 50 ans à venir, ou peut-être les 100 ans à venir, voire pour beaucoup plus. Donc je pense qu'il est parti comme un intellectuel en politique qui a dit « mais si nous pensions un peu à la Brodelle, en termes de vie et de survie de la France et de la civilisation », et il a embarqué tout le monde dans cette aventure, parce que tout le monde est bien obligé, quoi. Et on voit que, quels que soient les clients de cette aventure, on ne les connaît pas tous, mais quels que soient les clients, ils sont obligés de penser plus ou moins en regard de cette histoire de la France, de la civilisation, de la culture, du judéo-christianisme et de ce qui nous attend après. Et
donc Mathieu, la question de la survie de la France.
Nous en parle depuis un petit moment et moi j'adore le Québec aussi, mais je veux dire, on voit bien ce qui se passe au Canada et aux États-Unis et comment tout ça arrive aujourd'hui en France et en Europe. Et je pense qu'on est obligé maintenant de se déterminer par rapport à ça. Est-ce qu'on veut vraiment une civilisation de l'éveil ou de la culture de l'effacement, ou est-ce qu'on veut une autre civilisation qui nous permettrait, j'avais raconté ça dans L'Art d'être français, mais de rester fidèle à Montaigne, à Descartes, à Marivaux, à Rabelais, à Victor Hugo, par exemple.
Et vous partagez le diagnostic sur ce moment particulier, c'est-à-dire c'est vraiment un choix essentiel pour le pays, certains disent aussi pour la civilisation?
Il y a une vingtaine d'années, j'avais publié un petit texte qui s'appelait « Puissance et décadence », et à l'époque, mon éditeur qui était Grasset m'avait déconseillé de le faire paraître, en estimant que je passais probablement du côté obscur de la force. Je l'avais donné à une revue d'Europe centrale, jamais retrouvé les traces de tout ça, mais enfin, on peut attester que je pensais déjà à ces choses-là à cette époque. Et j'ai ensuite écrit, alors là, pour le coup, c'est visible, il fait 500 pages, Décadence, qui raconte ça. Je pense que j'ai l'âge maintenant, et la culture, quand on a travaillé pendant des années, qu'on a accumulé des références, on peut lire, par exemple, des gens qu'on a du mal à comprendre quand on a 20 ans, comme Malraux, par exemple, ses travaux sur l'art, ou même Hegel, tous les textes de philosophie de l'histoire, on peut les lire à cette époque-là, mais on les comprend que tardivement. Je fais une partie de ma thèse sur Spengler. J'étais pas en état, franchement, de comprendre Spengler quand j'ai soutenu ma thèse sur ce sujet-là, mais je commence à pouvoir entrer dans Spengler, dans Toynbee, enfin, dans tous ces historiens, ou Brodel, bien sûr, qui pensent de manière très large, en disant, allez hop, on y va pour 1000 ans, quoi. Et l'idée que dans une petite élection présidentielle où chacun est en train de dire « mais combien de fonctionnaires allez-vous supprimer ? 200 000, non 213, ah mais moi c'est 208, ah mais vous êtes de droite, mais non je suis de gauche. » Et on a quelqu'un qui arrive d'un seul coup en disant « alors la civilisation stop ou encore ?»
Mais à partir du moment où une civilisation ou une nation se pose la question de sa survie, de sa décadence pour reprendre le terme que vous avez proposé, est-ce que ça ne vient pas avec ce sentiment qu'il est peut-être déjà trop tard ?
Vous avez tellement raison, c'est trop tard pour moi.
Vous en êtes convaincu?
Oui, oui, absolument.
Est-ce qu'une part de vous ne croit pas néanmoins à la possibilité de l'action politique?
Il y a une part romantique chez moi. C'est-à-dire que le Titanic est en train de couler, on s'est vraiment pris l'iceberg. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on ne va pas se jeter sur les chaloupes en disant je passe sur le corps d'autrui, on va pas être. Non, je pense qu'il faut être élégant, qu'il faut mener un combat perdu d'avance, mais qu'il faut le mener. Parce qu'on ne va pas se mettre à collaborer au trou, je dirais. On va encore écarter le trou pour que ça coule encore plus vite. Mais je pense que tout le monde est convaincu du fait que tout le monde va mourir, mais pas lui. Chacun pense que sa mort est évitable, mais la mort d'autrui, oui. Tout le monde sait que les civilisations sont mortelles. Et on sait bien que Karnak, Lascaux, ça a été des civilisations, ce ne sont plus des civilisations actives et vivantes, qui assurent Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, que tout ça, ça a eu un temps, date de naissance, date de décès, tout le monde est d'accord sur ça. On va aujourd'hui en Égypte, on visite les pyramides, et plus personne ne croit qu'Horus est un dieu pertinent, pas plus qu'on ne pense que Jupiter ou Zeus, enfin encore que pour Jupiter, quelques-uns y croient encore, mais soient encore des dieux pertinents. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dire « oui, tout le monde est mortel, je le suis aussi, toutes les civilisations sont mortelles, la nôtre également ». Ça, on n'est pas capable de faire ça. Donc notre civilisation est dans un état de décomposition avancée, et Ségalène a fait un très beau texte sur les marquises, et il permet vraiment de penser le fonctionnement de la décadence sur un petit espace, c'est pas les 10 siècles de Rome, par exemple. Et lui dit « c'est quand on a perdu la mémoire des ancêtres, que la place est faite pour le néant, si on peut dire qu'il faut une place au néant, et à ce moment-là, les prêtres peuvent arriver. Ce ne sont pas les prêtres qui font tomber la civilisation maori, c'est parce qu'elle était déjà effondrée sur elle-même que les prêtres peuvent arriver. Et on peut dire la même chose pour nous. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'islam qui détruit notre civilisation. Je pense que nous nous détruisons nous-mêmes et que l'islam peut arriver comme n'importe quel autre substitut à cette civilisation.
Mais je me souviens d'un échange entre vous et François-Xavier Bellamy dans les pages du Figaro il y a quelques années. Oui. Et cette question était posée, vos réponses étaient contrastées. Vous disiez, de manière romaine, eh bien, il faut tenir, donc nous sommes condamnés à l'ensevelissement, mais il faut tenir, mourir droit, mourir debout. Et il vous répondait, peut-être parce qu'il a quelques décennies de moins, Bellamy répondait, mais je ne peux pas me résoudre à ce destin de vaincu, je ne peux pas tolérer de mourir debout, il faut se battre. À partir du moment où on pose la question, il faut se battre. On peut se battre avec l'horizon d'une certaine victoire. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer autre chose qu'une décadence certaine? Y a-t-il la possibilité d'une renaissance?
Non, ça je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce qui faisait la vitalité d'une civilisation n'est plus là. Et puis on peut même faire de la politique fiction en disant, bon, celui qui tient le plus ce discours-là, c'est Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour est le président de la République. Il fait un gouvernement qui va dans le sens de son projet et de son programme. Il faut une Assemblée nationale qui soit de sa couleur. Il faudrait que le Sénat y soit aussi. Il faudrait qu'il ait avec lui la presse, les institutions, l'université, les médias, etc. etc. Il y aura une incapacité à gouverner ce pays. Il est devenu ingouvernable. Je ne veux pas prendre le pari aujourd'hui, mais je pense qu'on aura probablement un président maastrichtien. Il s'appellera Emmanuel Macron, il s'appellera Valérie Pécresse. Mais tout le système est ainsi fait.
Les blancs bonnets ou bonnets blancs,
oui,
pour vous?
Oui, pour moi, c'est la même chose. Oui,
c'est grave, parce qu'en termes de démocratie, ça veut dire que le choix, finalement, c'est un faux choix, c'est un leurre.
Vous avez tellement raison que de convoquer le mot. Je pense que nous ne sommes plus en démocratie. Moi, ça fait des années que je gagne des caisses de champagne en disant que je peux donner presque le nom du vainqueur aux prochaines présidentielles. On dit Alors, je ne donne pas forcément le nom, mais je dis que ce sera quelqu'un qui défendra le système maastrichtien. Et regardez, depuis Mitterrand, je ne me trompe pas, hélas. Donc, à chaque fois, c'est l'un, c'est l'autre, d'accord. On dit, oh là là, il va y avoir un enjeu incroyable, vous vous rendez compte, entre Macron et Pécresse. Bon, c'est très exactement la même chose.
Ce qui caractérise aussi cette époque que nous vivons, c'est qu'elle est empreinte de violence. On l'a vu pendant ce quinquennat à l'occasion des Gilets jaunes, mais on l'a vu à moult autres occasions. On le voit aussi dans le vocabulaire employé par une partie du personnel politique. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette violence, ce climat aussi tendu?
Ça procède du même nihilisme avec une impunité totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un délinquant bien connu dans les banlieues, c'est-à-dire que l'autre fois, j'entendais Gérald Darmanin nous donner le nombre d'endroits qui sont des zones de non-droit. Il sait où ça se trouve, il sait comment ça marche, etc. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Si, en revanche, vous n'avez pas votre passe sanitaire et que vous êtes sur une terrasse de café et que la police arrive, alors là, vous allez ne pas échapper à l'amende. Et on se dit, il y a quand même deux poids, deux mesures, et il y a une impunité totale pour un certain nombre de gens, notamment les gens qui contribuent à la négation de notre culture, de notre civilisation. On sait bien qui échappe toujours à la loi. Moi, dans mon village natal, tout au départ du Covid, il y a une pauvre grand-mère qui s'est fait verbaliser parce qu'elle est allée au cimetière sur la tombe de son mari et qu'elle avait rempli sa propre autorisation de sortie avec un crayon papier. Et on estimait qu'éventuellement, elle aurait pu gommer l'heure et la date pour changer et probablement faire la fiesta pendant 24 heures. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation dans laquelle les gens qui ne se rebelleront pas seront pris à partie par la police et par la justice, pendant que d'autres seront totalement épargnés? Donc la violence aujourd'hui, elle est généralisée.
Mathieu Bock-Côté.
Vous avez évoqué la candidature d'Éric Zemmour, Nicolas Barré a évoqué la question de la violence dans la campagne. Mmh. J'aimerais vous poser la question toute simple. Comment expliquez-vous l'incroyable violence symbolique, pourrait-on dire, tournée vers le candidat Zemmour? Qu'on soit d'accord avec lui, c'est une question assez secondaire par rapport à ça. Mais la virulence des propos à son endroit, l'extrême droitisation, la nazification, la fascisation, la talibanisation, la pétainisation, comment expliquer la réaction très vive d'une partie du personnel politique et médiatique par rapport à cette candidature?
Il y a quelque chose que j'appellerais un avatar chez tous ceux qui sont des personnages médiatiques. Vous le savez bien, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on est à la télévision, puis de temps en temps, les gens nous voient. D'abord, ils avaient l'impression qu'on n'avait qu'un buste. Et alors, il y a des gens qui me disent « Ah, mais vous n'imaginez pas si grand que ça ?» Je dis « Bah oui, je n'ai pas grand comme ça dans la vie. » Voilà. Et puis on me dit « Ah, mais alors, vous ne sautez pas la gorge des gens, vous êtes plutôt gentil. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Je dis, quand vous êtes sur un plateau, qu'on vous agresse, que bah évidemment vous agressez. On est dans. Je pense que le gladiateur, quand il rentrait chez lui, c'était un gentil papa qui aimait beaucoup sa femme et qui de temps en temps fêtait probablement l'anniversaire de ses parents. Et puis voilà. Donc on a des avatars. Et il faut fabriquer des avatars. Et un avatar Éric Zemmour qui est effectivement l'abomination de la désolation. C'est le fameux quart d'heure de haine chez Orwell. Hein. Alors, un temps, c'était Jean-Marie Le Pen, un autre temps, ce fut Marine Le Pen, et elle échappe à ça. Et d'un seul coup, c'est Éric Zemmour. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Il y a 15 ans, vous avez écrit dans un journal telle phrase qui veut dire que vous êtes misogyne. Vous avez dit dans une télévision, un jour, une émission, que, etc. C'est bien la preuve que vous êtes pétiniste. Vous avez également fait savoir que...
Donc c'est ça un procédé que l'on vous fait également, Michel Onfray, depuis de nombreuses années.
Je peux l'analyser parce que j'en fais l'objet.
L'extrême droitisation,
bien sûr. L'idée qu'effectivement, je suis d'extrême droite, je suis fasciste, que je suis passé de l'autre côté, que, etc. Très bien, moi je sais qui je suis. Et on peut insulter mon avatar, moi je sais que c'est mon avatar, je sais bien qui je suis. Et moi j'ai 2 ou 3 personnes qui sont susceptibles de me juger, dont mon père qui n'existe plus, et dont ma compagne qui est décédée. Et donc ma compagne d'aujourd'hui, qui elle est bien vivante, c'est à peu près tout. Je me moque de ce que le monde peut dire de moi. Quand je dis le monde, c'est tout le monde, mais c'est aussi le journal Le Monde.
Et hein. Ben justement, on va en parler. On va marquer une courte pause que le journal Le Monde, effectivement, a reproché, en tous les cas, à certains intellectuels leur bienveillance par rapport à Éric Zemmour, à la montée d'Éric Zemmour. Il y a quelque temps, Alain Finkielkraut nous avait répondu à cette antenne sur ce sujet. Nous vous entendrons plus largement sur le paysage politique également. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et en ce dimanche, notre invité Michel Onfray, penseur, auteur prolifique et cofondateur de la revue Le Front Populaire avec 7 une, droite et gauche, espèces menacées. Justement, Michel Onfray, est-ce que vous croyez à une renaissance malgré tout des partis politiques? On l'a vu à l'occasion de la primaire LR, il y a eu un effet waouh décrit par certains après l'élection de Valérie Pécresse. Est-ce qu'il y a là peut-être un engouement, une appétence ou peut-être un feu de paille, disent certains?
Donc moi je distingue bien les partis des sensibilités. Les partis, je pense que c'est un peu fini. L'idée de un peu augustinienne, que le schéma du ciel serait susceptible d'être dupliqué sur Terre avec une espèce de patron, de chef, les anges, les archanges, le petit peuple, etc. Avec jadis un François Mitterrand, un Jean-Marie Le Pen ou un Jacques Chirac, enfin, des individus qui pilotaient leur parti comme Dieu pilotait le monde, ça, je crois que c'est fini. Et que les gens n'ont plus envie, de toute façon, de dire « Mitterrand a dit, donc on obéit. Mitterrand était de gauche, il cesse d'être de gauche, on était de gauche, on cesse d'être de gauche. Enfin, » je pense que les gens ont quand même compris que cette façon de se comporter n'était plus possible ou pensable. Mais les sensibilités existent encore, toujours. Je pense que l'idée d'une droite et d'une gauche, ça existe encore. Alors après, ça dépend de l'épithète que vous associez. Vous avez une droite souverainiste et une droite qui ne l'est pas. Vous avez une droite libérale et une droite qui ne l'est pas.
Mais justement, alors le souverainisme, c'est la chose la mieux partagée en ce moment, en tous les cas dans les mots.
Oui, oui.
Oui, vous savez, c'est pour ça que j'ai bien dit, je crois, dans les mots.
Macron, qui est un caméléon total, est capable de dire souveraineté de la France plus souveraineté de l'Europe. On dit non, il va falloir choisir.
C'est pas possible pour vous. Souveraineté européenne, non. C'est contradictoire.
Mais une femme ne peut pas être enceinte et ne pas attendre d'enfants. Je veux dire, en même temps, c'est pas possible. Ça peut être successif, mais pas en même temps. Donc,
pourquoi c'est... Parce que l'Europe n'est pas une nation.
Non, c'est pas une nation, l'Europe, bien sûr que non. C'est un ensemble de nations qui est structuré idéologiquement par une spiritualité qui est la spiritualité judéo-chrétienne, mais ça ne constitue pas une nation. Et l'Europe ne constitue pas elle seule non plus l'Occident. À quoi il faudrait ajouter pour que nous disposions de l'Occident, des États-Unis, de l'Amérique plutôt, mais également Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Donc c'est pas du tout la même chose, non.
Alors, vous évoquiez la question souverainiste. Un des drames, peut-être, des 30 dernières années en France, c'est le fait que les souverainistes ont tout fait pour se rassembler sans jamais y parvenir. Souverainistes de gauche, souverainistes de droite, mais qui ne parviennent pas à trouver un étendard commun. Comment expliquer cette impossible réconciliation des souverainistes?
D'abord, moi j'ai dit du souverainisme, quand on a démarré cette revue, que c'était l'art de reprendre les commandes du bateau. On était avec, enfin, en gros, dans un bateau ivre, et le souverainiste, c'est celui qui dit « il est bon que nous puissions reprendre la barre ». Maintenant, ça ne veut pas dire du tout qu'on va aller à bâbord, à tribord, qu'on va arrêter, qu'on va accélérer le mouvement, qu'on va faire marche arrière. Voilà. Donc, il faut déjà s'entendre sur l'idée que le souverainisme, c'est un art de reprendre son destin en main. Ça n'est que ça. Donc maintenant, quand vous auriez repris votre destin en main, rien ne fait que vous devriez prendre une politique qui serait justement de bâbord ou de tribord. Donc on peut imaginer qu'effectivement, tant qu'on n'avait pas résolu matériellement cette question-là, en disant front commun d'abord pour recouvrer la possibilité de faire de la politique à nouveau, et puis après, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors vous, après, on peut trouver un programme commun.
Vous, Michel Onfray, vous venez plutôt de bâbord quand même. Comment est-ce que vous expliquez que cette gauche soit dans l'état dans lequel elle se trouve?
C'est compliqué, mais on peut faire court. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de choses qui contribuent à ça. C'est-à-dire c'est la fin, par exemple, de l'Union soviétique, 92. On a, il y a quelque temps, le 26 décembre, commémoré la disparition de l'Union soviétique. Donc ça, c'est une première déception pour les marxistes. Et puis une deuxième déception pour les marxistes, c'était Mitterrand qui renonce à la gauche en 1983 et qui s'en vient dire que, bon, finalement, on a trouvé un autre projet qui est le projet d'une Europe libérale, maastrichtienne, etc. C'est l'ère du... on passe de Jaurès à Bernard Tapie. Et ça devient « vive la crise, enrichissez-vous », toutes les années frime, fric, etc. Donc évidemment, on se dit « mais si on ne peut plus être marxiste, si on ne peut plus être socialiste, et si finalement tout ce monde-là finit par défendre la même vision du monde qu'un Chirac, qu'un Giscard, parce qu'en fait, qu'a fait Mitterrand, il a fait du giscardisme, hein, pas plus, pas moins. Il y a eu à un moment donné une espèce d'effondrement, les gens ont dit « mais on ne peut plus souscrire à ce genre de choses ». Donc la gauche, elle s'est un peu éparpillée partout. La sensibilité de gauche, pour moi, elle est très simple. Vous savez, dans Les Misérables, vous connaissez l'histoire, on a eu déjà l'occasion de parler de l'homme qui rit dans le couloir, vous et moi, de Victor Hugo, nous avons cette passion en commun. Et d'une certaine manière, vous vous souvenez de Fantine, qui est tellement pauvre, pauvrissime, engrossé par un petit con qui, etc. Bon, j'en connais des petits cons dans ce genre à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, etc. Et cette femme, à un moment donné, elle est tellement pauvre, fille mère, etc., qu'elle vend ses dents et ses cheveux. Et il est bien évident que les palettes, les deux dedans, de devant, et Victor Hugo est du côté de ces misérables-là. La gauche, c'est ça. On est du côté de Fantine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus. Mais elle existe si peu qu'aujourd'hui, c'est celle qui vous achète vos dents et qui vous achète vos cheveux. Elle achète des utérus aujourd'hui, la gauche. Elle achète des enfants. C'est ça qu'elle nous propose, la gauche woke. Elle nous dit en gros, y a des pauvresses qui n'ont que ça à faire. Pierre Berger nous disait, après tout, louer un utérus ou louer des bras qui vont permettre de faire fonctionner la caisse. Quand on est dans un supermarché, c'est exactement la même chose. Vous avez des enfants, les enfants, ça s'achète, ça s'avance, ça se vend. Vous le voulez comment, votre enfant? Blond, aux yeux bleus, roux, etc. C'est la gauche qui défend ça. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est la gauche qui dit à Fantine, prostitue-toi, vend tes dents, etc. Donc moi, ceux qui disent de moi que je ne suis plus de gauche et que je suis passé à droite, ça me gêne pas du tout, s'ils le pensent eux. Mais je ne suis évidemment pas de cette gauche.
Ils vont plus loin, Michel. Oui, fait, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même par rapport, par rapport à Alain Finkielkraut. Je faisais référence à cet article du Monde. Et Alain Finkielkraut, sur cette antenne, nous disait qu'il y avait une obsession antifasciste en France. Est-ce que c'est le cas, selon vous?
Ils me font rire, ces gens-là, le fascisme. Quand il y a des fascistes, il y a de la mort au bout du fascisme. C'est le vive à la muerte chez les fascistes. Et quand vous êtes antifasciste, vous risquez votre peau aussi. Et vous risquez quoi aujourd'hui quand vous êtes antifasciste? D'être invité sur les plateaux de télévision en information continue pour commenter la réalité où on vous donnera la possibilité de vous exprimer tout le temps. Bon, des antifascistes comme ça, des fascistes comme ça, je vous assure que dans les années 30, il y a pas mal d'antifascistes qui auraient aimé avoir ce genre d'ennemis-là. Donc c'est une espèce d'inflation verbale qui procède de Staline quand même. C'est Staline qui explique que quiconque n'est pas avec lui est contre lui, et que quiconque est contre lui est fasciste. C'est-à-dire un homme qui a collaboré avec Adolf Hitler pendant 2 ans. Je rappelle quand même que personne ne parle du pacte germano-soviétique, mais de 39 à 41, les communistes français collaborent avec l'occupant, parce qu'ils estiment qu'ils ont les mêmes ennemis, le général de Gaulle, la City, les Juifs, les bourgeois, Londres, etc. Et ce sont ces gens qui aujourd'hui nous donnent des leçons d'antifascisme en nous disant qu'ils sont antifascistes. Ce sont les gens qui ont défendu Pol Pot, ce sont les gens qui ont défendu Mao. Ce sont les gens qui ont défendu Castro et qui sont aujourd'hui des antifascistes.
Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on ne cesse de traquer les dernières traces du fascisme en notre civilisation, mais l'autre part de l'expérience totalitaire au XXe siècle, le communisme, ses différents variants, pour le dire ainsi, c'est comme s'il ne nous avait pas marqué définitivement, comme s'il n'y avait pas une trace de tout cela dans notre présent. Est-ce que ce totalitarisme nous domine encore aujourd'hui sans qu'on ne le sache de près ou de loin?
Bien sûr. Et je pense que l'un des mérites de Zemmour, ça aura été justement de faire exploser la mythologie gaulo-communiste. C'est-à-dire que quand les communistes collaborent pendant 2 ans, ça ne se dit pas. Vous avez les films de René Clément, La bataille du rail, les communistes, ils sont formidables, l'affaire Manouchian, ils ont été résistants, le parti des 75 000 fusillés. Pas du tout, c'est faux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Si le général de Gaulle, qui arrive au pouvoir en 1946, dit « Bon, maintenant, on va commencer à aller chercher les pétinistes, les vichistes, les collaborationnistes, etc. », il va pas trouver beaucoup de magistrats, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'enseignants, d'universitaires, presque tout le monde... collaborer. Hein. Il y avait peu de gens qui résistaient quand ils n'avaient pas de bonnes raisons de résister. Donc on se dit effectivement que le général de Gaulle dit « il y a les communistes, il y a nous, on a été résistants, Pétain ça n'existe pas, Vichy ça n'existe pas, c'est une espèce de parenthèse, et puis on se partage le pouvoir ». Mais Malraux disait à l'époque, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Comment on partage le pouvoir quand on est le général de Gaulle? On ne va pas donner l'industrie ou la défense au Parti communiste français qui est inféodé à l'Union soviétique. Vous n'allez pas leur filer le poste de Premier ministre. Donc vous allez leur donner des postes dans lesquels ils vont pouvoir exister sans forcément trop nuire, c'est-à-dire la culture, l'éducation nationale, l'université. Et vous allez laisser rentrer cette espèce d'idéologie marxiste-léniniste en disant « on les laisse faire pourvu qu'ils nous laissent faire les choses sérieuses, l'industrie, l'armement, la politique étrangère ou ce genre
Mais
de choses ».
C'était un calcul à court terme.
Vous avez raison, c'est-à-dire que ça permettait de gouverner la France pendant que de Gaulle était au pouvoir, simplement se refouler, il revient un jour. Il y a un moment donné où il revient. Alors ça revient sous des formes multiples, effectivement. On découvre la Francisque de Mitterrand, on découvre qu'il était dans des manifestations d'extrême droite contre le recteur Gèze à l'époque, et qu'on a des photos de Mitterrand où il est dans des manifestations avec des banderoles disant « abat les étrangers ou les étrangers dehors », etc. Manifestations antisémites. Il était maréchal, maréchaliste, vichiste. Il y a des textes de Mitterrand qui sont en faveur de la milice parce qu'il estime que Pétain, c'est quand même pas assez musclé. Et on finit par découvrir tout ça. Mais là encore... C'est-à-dire tout le monde veut absolument, par exemple, exploser le statut de Colbert. Mais personne n'a envie de débaptiser la bibliothèque Mitterrand. Mitterrand, c'est quand même très clair. Mitterrand, il a eu la Francisque, qui a un passé qui est un passif. Du côté de l'extrême droite, il a défendu l'Algérie française. Il était ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie. Et voilà un personnage qui a défendu justement ce qu'on appelle depuis l'Algérie française. Voilà un homme qui a refusé la grâce de militants du FLN et qui les envoyait directement à la guillotine. Tout ça est dûment expliqué dans les biographies de Mitterrand. Ah mais Mitterrand, on ne touche pas.
Et pourquoi,
non.
De votre point de vue?
Là encore, le mythe gaullo-communiste, on ne touche pas à ça. Moi, j'adore la bibliothèque de la Pléiade. Vous vous rendez compte, l'archipel du Goulag n'est pas en Pléiade. Il y a Paul Morand, il y a Drieu-La Rochelle, il y a Céline. Il n'y a pas l'archipel du Goulag. Si vous voulez acheter l'archipel du Goulag, il y a quelque temps, j'étais sur une émission littéraire, on me dit « Ah, vous pouvez acheter l'archipel du Goulag ». Je dis « Version de morceaux choisis ». Mais non, pas du tout, c'était chez François Bunel. Je dis « Si, vérifiez ». Mais non, il est obligé d'ouvrir. Je ne sais pas si ça a été gardé au montage ou pas. 3 volumes aux éditions du Seuil, introuvables. Ça s'achète d'occasion, l'archipel du Goulag. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Alors aujourd'hui, en revanche, il y a un volume de la Pléiade qui est consacré aux écrits des gens qui ont consacré tel ou tel texte, roman ou autre, au camp de concentration nazi. Et c'est fort bien. Ça s'appelle « Si c'est un homme », à propos de... Ça reprend le titre de Primo Levi. Et c'est un livre collectif. Mais bon sang, pourquoi y a-t-il cette espèce d'extraterritorialité qui veut qu'on aille pourchasser partout? Et c'est très bien. Les nazis, les vichistes, les maréchalistes. Mais qu'en même temps, on ait la possibilité d'avoir défendu les 100 millions de morts, pour aller vite, de l'Union soviétique, les plusieurs millions de morts de la Chine communiste. Vous avez un Alain de Benoît qui est absolument impossible à inviter parce qu'il a défendu l'Algérie française dans les années 60. Mais des gens comme Bernard-Henri Lévy qui ont été maoïstes, Philippe Solers qui a été maoïste, ou d'autres.
Vous les mettez sur le même plan ?
Bien sûr. Mais si vous voulez même faire un compte, je veux dire, il y a quand même des millions de morts du côté de ces gens pour lesquels on a un certain nombre de faveurs. Donc ma gauche est libertaire, mon socialisme est libertaire, et vous ne me trouverez pas du côté des défenseurs, des barbelés, des miradors, sous prétexte que dans un grand moment hegelien, on aurait préparé une humanité nouvelle et réconciliée. Je ne crois pas à ces choses-là.
Mais Michel Onfray, on va vous trouver du côté de la défense de la culture française.
Oui.
C'est la partie qui vient justement de l'art d'être français, que vous avez si bien défini, appréhendé dans l'un de vos ouvrages. Une courte pause, on y revient.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et surtout notre invité en ce dimanche, à la fois sur Europe 1 et CNews, Michel Onfray. On va avoir l'occasion de parler de vos récents ouvrages, les derniers ouvrages. Mais tout d'abord, une question de la part de Nicolas Barré.
Oui, Michel Onfray, Valérie Pécresse a dit ceci à propos d'être français. Elle dit « Être français, c'est avoir un sapin de Noël, c'est manger du foie gras, c'est élire Miss France et c'est le Tour de France ». C'est ça, être français pour vous ?
fumer des gitanes et rouler au diesel aussi. Pendant... Il y a une espèce de mépris, de mépris chez ces gens-là. Non, on peut faire un petit truc au-dessus, je sais pas, un petit
truc au-dessus. Ces gens-là, c'est-à-dire ?
Ces gens-là, bah, la classe politique, là, qui veut absolument récupérer le peuple et qui a l'impression, c'est même un peu comme Zemmour, quand ils s'en viennent nous dire, en gros, on va vous refiler, on va supprimer le permis à points, et puis... C'est pas ça, le peuple, quand même. C'est pas juste des gens qui bouffent du mauvais foie gras au pied d'un sapin de Noël. Je veux bien qu'on puisse dire des choses comme ça, c'est pas complètement faux.
Donc c'est du mépris de classe.
Elle aurait pu en appeler aux mythologies de Roland Barthes, par exemple, en expliquant que c'était la déesse, le steak frites, l'abbé Pierre, le Tour de France.
Elle répondait aux écologistes qui, pour certains maires écologistes, voulaient peut-être que, voilà, se mettre au niveau parfois des polémiques, c'est peut-être cela qui abaisse de manière générale, hein, le débat.
Je ne suis pas sûr que ce soit forcément des gens qui aient la culture qui leur permettrait d'embrasser ce qu'est la civilisation française, la culture qui leur permettrait de répondre autrement qu'avec ce genre d'informations. Ce n'est pas que ça, la France. Je veux dire, les Français, ce n'est pas que ça. On peut imaginer qu'il y a quand même une autre histoire de France que celle du foie gras, du sapin de Noël. Alors effectivement, si c'est de la politique politicienne et qu'il faut absolument penser à Pierre Jadot...
Mais au-delà de la politique politicienne, prenons au sérieux son affirmation. D'un côté, le discours sur l'identité de la France tient souvent dans les valeurs républicaines, répétées de manière incantatoire. Ce qu'elle a peut-être cherché à nommer à travers cela, ce sont les mœurs, tout simplement, la culture telle qu'elle se présente à nous, l'ordinaire des jours qui fait aussi l'identité. Est-ce que ce n'est pas une manière de contraster entre une vision très désincarnée de l'identité et de l'autre une manière de nommer la culture française telle qu'elle se goûte, telle qu'elle s'admire, telle qu'elle se vit ?
Alors moi, j'ai une façon très simple de dire ce qui est français. Pour moi, c'est aimer la France. C'est aimer la France, point à la ligne. Après ça, quelle que soit sa couleur.
Vous savez, il y a des étrangers qui aiment la France.
Ça se construit, l'amour. Ça ne se décrète pas, un amour, d'ailleurs, d'une personne ou d'un pays. Est-ce que ça se construit ou est-ce que ça doit venir ainsi ? C'est presque automatique. C'est un coup de foudre, en réalité.
Alors, ça dépend pour qui. Je veux dire que pour un Néo-Zélandais, il va falloir construire une image de la France. Mais pour quelqu'un qui naît en France... Ça dépend aussi de son milieu, de ses parents, de l'époque, de l'école, de ce qu'on lui aura fait lire, écouter, entendre, ou etc. Donc l'amour, ça existe avec des coups de foudre, mais ça existe aussi avec de la construction. Ça ne suffit pas un coup de foudre pour passer une vie avec quelqu'un. Après ça, il faut construire quelque chose. Et on doit pouvoir rendre aimable la France. Et il y a des gens qui sont en France sans aimer la France. Et puis il y a même des gens qui, non contents de ne pas l'aimer, la détestent. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus problématique. Je ne dis pas « vous êtes musulman, vous ne pourrez donc jamais aimer la France ». Je me souviens de Renaud Camus qui, jadis, disait, je crois me souvenir, parce qu'il m'avait fait un mail un jour en me disant que je disais n'importe quoi, que c'était faux, mais enfin qu'il y avait un certain nombre d'individus qui ne pourraient pas comprendre le théâtre de Racine, parce que pour comprendre le théâtre de Racine, il fallait ceci, il fallait ça. Non, pour comprendre le théâtre de Racine, il faut suffisamment lire le français. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont français et avec 10 générations de parents français et qui ont du mal aujourd'hui à lire Racine. Non, c'est pas seulement aimer et comprendre Racine, mais c'est aimer et comprendre la France. Et dans la France, il y a le sapin de Noël, il y a le foie gras, il y a le Tour de France, il y a aussi tout ça. Mais il y a aussi Racine, Corneille, Molière, Boileau, il y a aussi Montaigne, l'espèce de génie de Montaigne, la folie de Rabelais, il y a la grandeur littéraire et politique de Victor Hugo, mais il y a aussi le petit Algérien qui arrive en France et qui s'appelle Albert Camus, qui devient prix Nobel de littérature. Tous gens qui, quelle que soit leur religion, leurs origines, ont aimé la France et ont contribué.
Mais on pourrait vous poser la question autrement. Vous parliez plutôt du système maastrichtien. Est-ce que les figures qui composent le système maastrichtien aujourd'hui aiment la France, selon vous ?
Non, pas du tout.
Mais est-ce qu'ils sont français ?
Oui, ils sont français de papier, je dirais. Sur la carte d'identité, oui, mais quand vous regardez ce que Mitterrand dit de la France, il y a un moment donné où Jean-Pierre Chevènement, il me l'avait confié à une époque, mais comme il l'a écrit depuis, on peut le dire, mais où Mitterrand dit à Jean-Pierre Chevènement, on ne peut plus passer que passer entre les gouttes. En disant « la France ne peut plus que passer entre les gouttes ». C'est terrible de dire ça. C'est exactement Castaner, qui vient du socialisme hein, tout de même, qui avait fait savoir l'an dernier que l'élection présidentielle, ce serait une élection locale. C'est terrible, quoi. Ce type qui s'est dit « c'est méprisable, la France, une élection locale. Ce qui est important, c'est l'Europe. Et puis on a un président de la République, président de l'Europe, etc. etc. » Donc, non, regardez les textes de Jean Monnet. Mais Jean Monnet n'a pas été... innocemment installé au Panthéon et innocemment par Mitterrand.
Panthéon, on pense à une panthéonisation récente. Ma France est Joséphine Baker, pour le prononcer en français. Nous parlions d'amour, avait dit Emmanuel Macron.
Oui.
Première femme noire à entrer au Panthéon, mais une vie surtout multiple, la vie d'une patriote engagée contre l'Allemagne nazie. Est-ce que la France, tout simplement, c'est Joséphine Baker ?
Je ne joue pas à ce jeu où on veut mettre dans le même cercueil Verlaine et Rimbaud. Moi, je n'étais pas contre. À une époque, on m'a demandé mon avis. Je dis oui, pourquoi pas. Puis après, on me dit, mais vous voudriez être enterré avec votre ex. Je dis, bonne idée, bonne remarque. Peut-être me suis-je trompé et emballé un petit peu vite. Mais cette idée qu'il faudrait non pas mettre des hommes ou des femmes au Panthéon, mais des idées. donc les homosexuels avec Verlaine et Rimbaud, ou alors à l'époque d'Alexandre Dumas, un métis qui ceci, c'est, enfin voilà, on commençait à le dire un peu sans trop, etc., etc., ou le général de Gaulle en mettant Malraux, enfin, cette espèce de jeu du genre, moi j'ai choisi ça et toi t'as choisi quoi, et je trouve un peu fatigant qu'on aille faire presque parfois des violations de sépulture, ce qui avait été le cas un peu avec Albert Camus. On a dit, allez hop, on va le sortir de Lourmarin, puis on va l'installer ici. Et je pense que la meilleure façon d'honorer quelqu'un, c'est de le lire, c'est de le faire lire, c'est de l'aimer, c'est d'être à la hauteur de son engagement. C'est pas forcément de faire des violations de sépulture. Moi, je préférerais d'ailleurs que plutôt que d'aller chercher des grands anciens pour les installer au Panthéon, on ait l'art de célébrer les grands présents, les grands vivants, et pas des vedettes d'occasion, qui sont les vedettes d'un jour, là, ni même d'aller chercher obligatoirement dans les cimetières pour dire qui est-ce qu'on va pouvoir déterrer pour faire un peu de politique politicienne.
Dans quelle mesure diriez-vous que la culture, ou plutôt la sous-culture woke, infiltre nos institutions, infiltre l'école, infiltre l'université? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez très prégnant aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus de l'ordre du fantasme ?
Non, c'est pas prégnant. Vous savez, j'ai fait un livre qui s'appelait La Nef des Fous. J'en fais un autre là, qui est une espèce de rubrique au quotidien de l'effondrement. C'est-à-dire, je parle souvent du Titanic. Hein. Je dis, ben voilà, je fais un journal de bord de l'enfoncement du Titanic. Et il y a quand même, effectivement, la destruction de la culture est programmée. Quand on voit aujourd'hui des gens qui vendaient, je ne sais plus quel éditeur me dit ça il y a quelque temps, des gens qui vendaient 30 000 livres il y a 20 ans, en vendent aujourd'hui 3 000. J'avais les ventes des Pléiades, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais il y a 30 ans, c'est considérable l'effondrement des acheteurs de la Pléiade. Alors je dis pas qu'un acheteur de Pléiade est un lecteur de Pléiade pour autant, mais je veux dire que nous avons perdu un lectorat. Quand vous allez dans des concerts de musique classique aujourd'hui, il y a des personnes très âgées, des personnes âgées, même pas beaucoup de très jeunes, ou alors des gens qui sont très mélomanes, même musiciens ou ce genre de choses. C'est-à-dire que quand vous regardez la qualité du cinéma français, alors évidemment les jeunes vont beaucoup au cinéma, mais pour voir quoi ? J'ai revu l'autre jour, parce que je ne me lasse pas de ce film, et Tous les matins du monde, qui est un film magnifique. Vous pouvez faire un film qui emballe tout le monde en parlant de Marin Marais et de Sainte-Colombe. Qui sont
sublime,
deux gambistes du XVIIe siècle, avec une musique évidemment magnifique, plus les performances d'acteurs, Marielle, etc. Et vous dites, ça c'est du grand cinéma français, où on peut éduquer, émouvoir, apprendre des choses, etc. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de films qui n'existent, parce qu'ils sont financés, ça coûte très cher le cinéma, que parce qu'idéologiquement, ils sont l'occasion de défendre
Michel
l'idéologie.
Est-ce que vous voyez, ou on voit peut-être l'idéologie partout, ou est-ce que c'est la nostalgie qui nous fait voir qu'il y aurait de
mais
l'idéologie
regardez les
partout
publicités, toutes les publicités aujourd'hui, on vous vend de l'électricité, on vous vend une voiture hybride, on vous vend du café, et vous avez toujours l'idéologie. La petite fille insupportable qui donne des leçons à ses parents parce qu'il ne trie pas ses dosettes de café ou je ne sais quoi, ou deux filles qui s'embrassent sur la bouche, ou un couple mixte, etc. Mais vous dites, mais c'est bien, d'accord, mais il n'y a pas que ça en France, dire sociologiquement. Les minorités ne sont pas majoritaires par définition. Je suis en train de balancer une sottise là, en disant une chose. Mais non, là, les minorités sont majoritaires. Tocqueville se trompait quand il disait que le problème de la démocratie, ce serait la tyrannie des majorités. Si seulement c'était la tyrannie des majorités, ce serait formidable. Mais là, c'est la tyrannie des minorités.
Et
ces minorités, alors, publicité, cinéma, théâtre, littérature, mais on commence à faire sauter des passages dans des livres. Voilà. Moi, on m'a demandé de revoir un certain nombre de pages dans mes livres en me disant, bon, il y a un avocat, et il est sur mon manuscrit.
C'est mal vous connaître, parce qu'évidemment,
oui.
Ben voilà.
Mais voilà, la suite est la suivante. On a parlé des statues qui tombaient. Certains ont dit que ce n'est pas très grave. Mais maintenant arrive le temps du saccage des classiques.
Oui.
Alors jusqu'où ira ce mouvement selon vous ? Parce qu'il y a quelque chose qui fait penser à la révolution culturelle.
Oui, bien sûr. Vous avez vu l'autre jour à la télévision, il y a quelque temps, je ne sais plus, moi j'avais vu passer ça, Madame Bovary qui devenait Emma Bovary, parce que c'est une copine, quoi. Il faut qu'on raconte qu'elle est victime du système patriarcal, du machisme, etc. Mais on fait un autre film. Mais si on adapte Madame Bovary, on est respectueux de ce que dit Flaubert. Et ben non, aujourd'hui, on n'a pas à être respectueux de l'œuvre. Si on estime que... qu'est-ce que j'ai vu aussi comme chose extravagante dans cette dernière année, dans cette année passée là, enfin,
ben, je pense une idée. Au Canada, on brûle des livres parce que la représentation
bien
qu'ils
sûr
portent, certaines bandes dessinées, des Lucky Luke, des Astérix, parce que ça heurterait la représentation des Amérindiens. On brûle des livres, l'auto l'a fait.
Alors on les brûle, on a de la cendre et on utilise
en fait
cette cendre pour faire de l'engrais pour un arbre qui va dire la beauté du monde. Vous vous rendez compte ?
Mais j'aimerais vous... Alors, vous êtes socialiste, vous êtes libertaire, mais vous êtes aussi patriote.
Oui.
Est-ce que devant cette révolution qui vient des États-Unis d'Amérique du Nord, est-ce que la France n'est pas un pôle de résistance admirable ?
De résistance au wokisme ?
Oui, bien sûr.
Il y a deux choses. Je pense que la France est très... Tocqueville avait raconté ça dans l'Ancien Régime et la Révolution française. Il estime que la Révolution française n'a pas beaucoup touché au jacobinisme d'avant les Jacobins, je dirais. Il dit, mais depuis Philippe le Bel, la France est ultra-centralisée. Donc elle est toujours ultra-centralisée. Et je pense que les élites sont très woke. Que Le Monde, Libé, l'Obs, France Inter, etc. C'est-à-dire une poignée de gens qui vivent la plupart du temps avec l'argent public, sinon ces journaux s'effondrent totalement s'ils ne sont pas aidés. Hein. Ces gens-là, oui, ils sont minoritaires, mais majoritaires. Mais en revanche, il y a plein de gens qui rient de tout ça. Et puis éventuellement, quand vous êtes avec des copains, que vous avez bu un petit coup, et qu'ils disent « Bah ouais, t'as raison, on n'ose pas le dire, mais c'est vrai, t'as raison sur ce sujet. » Il y avait l'autre fois un film, c'était un grand patron viking, un grand costaud joué par une femme noire. Ça devrait faire rire, ça. On devrait dire, mais ça me fait rire. Pas du tout, il faut être sérieux. Et si vous dites, ah bon, tu trouves ça sérieux? Finalement, il y a des copains qui disent, bon, personne ne nous écoute, je peux le dire, je pense comme toi aussi. Des gens de gauche qui, effectivement, défendent le wokisme, etc. Je dis, mais un peu de courage, osez-le, quoi. Dites que ça commence à bien faire. Je ne suis pas sûr que la France résiste autant que ça. Disons que les élites françaises ont déjà sombré, c'est la soumission de Houellebecq, mais qu'en revanche, une bonne partie de la France profonde sourit de tout ça. Mais ne sourit pas trop fort parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se faire traiter de fascistes, de nazis, etc.
On va continuer à en parler parce que cela pose la question de la place de la France dans le monde et finalement de l'archipélisation aussi dans nos sociétés, ce que vous venez de décrire avec ces Frances, ces deux Frances ou ces multiples Frances qui se regardent. Une courte pause et on se retrouve avec Michel Onfray, Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barret.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barret, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et on vous accompagne avec grand plaisir ce matin à la fois sur Europe 1 et CNews, surtout notre invité Michel Onfray. Nous parlons de la France, des fractures françaises, de la place de la France dans le monde. Est-ce que Michel Onfray, est-ce que vous avez une vision kundérienne, j'allais dire, de la France? Est-ce que c'est une petite nation aujourd'hui?
Oui, Kundera n'avait pas tort de penser dans ces termes-là. Il nous reste à être grand dans la résistance. Je pense que ça pourrait être aussi l'occasion de finir en beauté, parce que la France, c'est pas rien. Justement, la culture, l'histoire, la peinture, la littérature, enfin, il y a des façons, on cuisine à la française. On a une musique française. C'est-à-dire, vous avez trois mesures, que ce soit Dindy, Fauré, que ce soit Debussy ou Dutilleux, ou même Boulez.
C'était votre livre, hein.
Pardon.
Les raisons de l'art, aux éditions Albin Michel, justement, oui.
C'est de la musique française. Vous dites ça, c'est de la musique française. C'est pas Bruckner, c'est pas Mahler, c'est pas Beethoven, c'est pas Wagner. Et c'est la même chose avec la peinture, c'est la même chose avec la littérature, c'est la même chose, etc. Alors, la littérature, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas comparer, quelque chose qui est écrit en français et puis la Divine Comédie qui ne sera jamais qu'une traduction, ou Cervantes ou Don Quichotte qui ne sera qu'une traduction aussi. Mais il y a un génie français qu'on ne célèbre pas parce que c'est interdit, parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas aimer ces œuvres-là. C'est beaucoup mieux si on va chercher ailleurs. Regardez là. Les espèces de palinodies du prix Nobel de littérature tous les ans. C'est assez extravagant. Il faut juste trouver quelqu'un qui a écrit un livre dans une maison d'édition, qui a publié trois livres, mais d'un personnage qui a vendu 30 exemplaires dans tel endroit du monde dont on ne sait même pas que le pays existe, ou ce genre de choses. Tout ça est très drôle. Mais en même temps, on n'a pas forcément besoin de compter nos prix Nobel. Moi, je voudrais qu'on compte vraiment nos littérateurs. Nous les avons, nos musiciens, nos compositeurs. Les compositeurs, aujourd'hui, souffrent. J'ai mon ami Éric Tanguy, avec lequel on a fait pas mal de choses. Éric, il est smicard, parce que, qui plus est avec le Covid, on n'en parle pas. On a des très grands musiciens, pas seulement ceux qu'on voit là, qui sont deux ou trois vedettes du violon ou du violoncelle, mais on a des gens de qualité extraordinaire.
Qu'est-ce qui nous empêche de les célébrer? Qu'est-ce qui nous empêche de nous rendre compte, d'ouvrir les yeux?
La haine de soi française. Une espèce de haine de soi. C'est assez français, c'est un signe aussi de la décadence, d'une certaine manière. Ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays. Il y a d'autres pays.
Alors, c'est un suicide. C'est plus qu'une civilisation qui se meurt, c'est une civilisation qu'on s'aborde, finalement.
Oui, bien sûr.
Mais dans quel autre pays, pensez-vous? Parce que ce me semble ce sentiment de haine de soi. Vous croyez que les Américains sont étrangers à la haine de soi?
Je pense que les États-Unis sont capables de célébrer leurs auteurs, leurs écrivains, leurs peintres. Ils ont des galeristes qui sont capables de les promouvoir partout sur la planète. Et aujourd'hui, après, il faudrait expliquer pourquoi. Pourquoi un certain nombre de peintres ont été en retrait, et pourquoi le marché est passé aux États-Unis. Il y a eu le 6 juin 1944, il y a eu l'American Way of Life, il y a eu cette idée que un certain nombre de peintres, dont je pense à, je sais pas, par exemple Picasso, Fernand Léger, qui est parti à New York, certains sont revenus, puis le marché s'est fait là-bas. C'était les vainqueurs.
Le Japon célèbre ce qu'ils appellent des trésors vivants.
Oui.
Grands cuisiniers, grands peintres, grands musiciens.
Moi, j'aspire à ça pour la France.
D'un côté, vous nous présentez une culture française vivante, riche de trésors, qui se crée, qui se recrée. Et de l'autre côté, vous nous présentez tout ça comme le dernier signe d'une civilisation agonisante. Oui. Est-ce qu'une civilisation qui porte cette vitalité ne porte pas en elle aussi, j'y reviens, pardonnez-moi, la possibilité, je ne dis pas la certitude, je n'ai même pas le désir, mais la possibilité d'une renaissance, ou tout le moins d'un désir, d'essayer un redressement?
Il faudrait, dans une vraie fiction, vous n'auriez pas tort en ce sens, mais il faudrait tellement d'inducteurs. Il faut des inducteurs. Vous regardez par exemple François Pinault qui m'a fait l'amitié de me faire visiter sa collection. Donc j'ai visité la collection, on a parlé un peu, etc. Mais je me suis dit, quand on est François Pinault, on sait qu'on donne une valeur ajoutée à une œuvre qu'on achète. Je me suis dit, mais pourquoi si peu d'artistes français? Pourquoi cette espèce d'oubli des artistes français alors que vous pouvez dire, mais moi j'achète tel individu, vous achetez 10 toiles de telle personne, d'un seul coup, du simple fait que vous les ayez achetées, ils ont pris 2-0. Donc quand on a ce pouvoir inducteur, on devrait pouvoir en faire un usage. Pour le coup, vous avez utilisé le mot patriote, je n'utilise pas beaucoup, mais je veux bien l'utiliser. En faire un usage patriote, ce n'est pas le cas.
Mais pourquoi se poser la question de la nationalité? Après tout, François Pinault, s'il aime une œuvre, que ce soit une œuvre d'un artiste français, américain ou chilien, peu importe.
Bien sûr, mais pourquoi pas les Français? C'est juste la question que je pose. On a le droit d'aimer tous les artistes de la planète qu'on veut. Pourquoi aime-t-on si peu nos talents français?
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réveiller ces inducteurs? Quel sursaut? Alors, je ne sais pas si ça suffira à sauver la civilisation, mais alors, qu'est-ce qui nous manque, justement, un petit peu pour cette célébration? Comment diminuer cette haine de soi? Qu'est-ce qu'il faudrait, j'allais dire, réveiller en nous pour, et en cette nouvelle année, on peut le dire, on peut avoir des perspectives, justement, pour anesthésier cette haine de soi et nous célébrer davantage?
Je crois, on a parlé tout à l'heure de la question des civilisations, de la vie et de la mort des civilisations. Aucun personnage qui aurait 103 ans et qui dirait « je voudrais un petit peu de vitalité » rencontrant un tout bébé disant « mais vous allez faire le marathon dans 6 mois, vous allez voir avec moi », personne ne croirait ça, personne. Donc vous me dites « mais qui faudrait-il ? » Il faudrait un magicien, il faudrait quelqu'un qui soit capable de faire de telle sorte que le réel ne soit pas le réel ou qu'un autre réel soit possible ou pensable. On peut le faire. Mais c'est un jeu de l'esprit pour moi. Il y a juste à un moment donné, on se dit, non, on peut encore dire oui, il y a des grands auteurs, il y a des grands écrivains, il y a des grands peintres, il y a des grands musiciens, etc. Et puis plein de jeunes talents, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, qui portent des choses, mais qui ne sont pas portées. Si vous allez voir un galeriste aujourd'hui, un des grands galeristes, qui est les 3 ou 4 qui font la loi à Paris, vont vous dire, ça ne m'intéresse pas. Et là, pour le coup, ils vont retrouver un type du Zimbabwe qui va peindre avec les doigts, et qui formidable, très bien, ils vont mettre une cote, et je ne suis pas contre ça, hein, entendons-nous bien. Je dis simplement qu'on n'est plus capable de cette vitalité et il n'existe pas de recette miracle qui nous permettrait de dire « Ah, si nous avions un nouveau De Gaulle, un nouveau Malraux, etc. »
J'y crois pas. Il n'y a pas quand même un travail à faire à l'école?
Oui, bien sûr, c'est ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il nous faudrait des nouveaux instituteurs, des nouveaux profs. Mais moi, je connais plein de profs qui me disent « On n'ose pas ». On n'ose pas parce qu'il faut absolument rentrer dans le moule. Et puis vous avez l'inspecteur. Mmh. L'inspecteur, il va aussi dans ce sens-là. Moi, j'étais 20 ans prof. Vous savez, je me faisais inspecter. Et après, l'inspecteur me disait, vous avez fait un beau cours, ceci, cela. Je dis, je vous arrête tout de suite, je ne fais jamais ce cours-là. Je fais un cours pour vous. Hein. Mais on ne fait jamais ce cours. Ah oui, vous croyez? Je dis, mais bien sûr, vous savez. Il a fini par me dire oui, etc. Tout le monde joue. Tout le monde fait semblant. Pardon.
Mais votre revue ne s'appelle pas Les Derniers Jours. Elle ne s'appelle pas Le Dernier Carré. Elle s'appelle Front Populaire. Mmh. C'est une référence politique. Donc, manifestement, lorsque vous créez une revue, vous l'inscrivez dans l'univers du politique, donc dans l'univers de l'action. Donc, si les circonstances s'accéléraient, pour reprendre la formule du général de Gaulle, il y aura une élection présidentielle bientôt, à ce qu'on dit, serez-vous tenté de vous prononcer sur cette élection? Ou pour vous, puisque déjà tout est foutu, pourquoi se préoccuper de la présidentielle qui vient?
Je ne veux pas vous apprendre quelque chose quand je vous aurais dit que tous les candidats sont déjà communs. Tous.
Et vous êtes girondin?
Et je suis girondin.
Mais s'il faut choisir parmi les jacobins, vous serez tenté?
Non. Je vais arrêter de jouer ce jeu-là. Je l'ai tout le temps joué par honnêteté. On m'a posé la question et à chaque fois, j'ai pu dire oui, peut-être, tel individu. Peut-être ça devenait lui. Et jusqu'à ma notice Wikipédia aujourd'hui, c'est lui. Et voilà. J'ai fait un jour sur une émission, il y a très longtemps, de Ruquier qui me dit « Ah, il va y avoir des élections et vous pourriez voter pour qui ?» Je ne sais pas. Mais il y aurait machin, bidule, intel. Je ne sais pas.
Je ne vous demande pas pour qui vous voteriez. Oui. Mais êtes-vous étranger aux passions politiques?
Non, parce que ça m'intéresse comme un jeu de société. Mais je pense simplement que la politique, elle se fait ailleurs. C'est des jeunes paysans qui produisent des produits autrement, qui diffusent autrement, qui distribuent autrement. Des femmes, Baba Yaga, vous savez, ces femmes qui disent « Ah, mais nous, on n'a pas envie de s'emmerder avec des vieux cons dans un EHPAD. Nous, on va créer notre structure et on va s'inventer ça. Créer des écoles alternatives. » Le girondisme, pour moi, c'est ça. C'est n'attendez pas l'homme providentiel. Moi, je crois au peuple providentiel. C'est pourquoi aucun de ces individus ne m'intéresse pour la présidentielle. C'est à chacun de dire, bon, ça ne va pas dans notre village, on ne va pas demander des subventions pour faire ceci ou pour faire cela, etc. On va faire. on va se faire aider. C'est difficile, hein. Moi, j'ai renoncé à une université populaire dans mon village parce que simplement, les élus ne veulent pas, ils n'ont pas envie, ils n'aiment pas ce qui réussit, ils aiment bien. Bon, on dit très bien, restez, il n'y a aucun problème. Et moi, je crois aux actions individuelles et je crois que la politique. Je suis proudhonien, hein. Donc, je crois que les actions individuelles, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez aujourd'hui créer une web TV. Vous pouvez faire une radio, ça ne coûte pas cher. Vous avez vraiment, tout le monde a le matériel chez soi. Vous pouvez faire une maison d'édition. Vous pouvez faire une école, vous pouvez faire un restaurant alternatif, etc. Vous pouvez récupérer les personnes âgées du village en disant « Voudriez pas qu'on fasse une espèce de petite école après l'école pour que, parce que les parents peuvent pas toujours. »
Et le pouvoir est là pour vous. Oui. La flamme de l'action est davantage là.
Il n'en reste pas un peu à l'Élysée ?
Pardon ?
Il n'en reste pas un peu à l'Élysée du pouvoir ?
Le chef de l'État n'est jamais qu'un des ministres de l'Europe de Maastricht. Et l'Europe de Maastricht, elle n'est pas décidée par des gens élus. Vous savez bien qu'il y a une commission assez occulte avec des gens qui sont là et qui décident, etc. Chef de l'État, tous les matins, il prend le téléphone et puis dit « Alors, je fais quoi aujourd'hui ?»« Mais mon cher Emmanuel, il va falloir que tu n'oublies pas ceci. »« Oui, bien sûr, j'allais l'oublier, etc. » Ça reste ça. Dans l'Europe maastrichtienne, c'est ça le souverainisme.
Et il y a un visage que vous pouvez mettre sur l'Europe aujourd'hui. Parce que la Banque Centrale Européenne veut faire figurer des visages justement sur les billets en euros. Est-ce qu'il y a un visage qui pourrait être incarné
Je sais qu'ils vont choisir Jean Monnet, Maurice Schumann et quelques autres. Schumann.
Oui. Vous choisiriez qui ?
Pour l'Europe.
Pour incarner l'Europe.
Le beau visage de l'Europe, ça
même si vous êtes plus français qu'européen, mais enfin, vous choisiriez qui ?
Ça pourrait être Dante, ça pourrait être Cervantes, ça pourrait être Montaigne ou Molière, ça pourrait être Goethe, ça pourrait être. Mais ça pourrait être Mozart, ça pourrait être Beethoven, ça pourrait être Debussy. On va avoir Simone Veil, on va avoir tout ça. Enfin, on aurait, je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est. Mais en même temps, ce n'est pas ça le problème. Je crois que le problème, là encore, comme avec le Panthéon, ce n'est pas d'aller fouiller les cimetières. Le présent d'un pays, c'est son futur.
Et ben restons dans le présent, Michel Onfray, pour conclure cette émission, mais aussi le futur, j'allais dire, qui arrive bientôt. Vos prochains ouvrages, peut-être pour conseiller à nos auditeurs, nos téléspectateurs, quels sont-ils ? Vous êtes toujours un auteur prolifique,
j'imagine, c'est un foisonnement. Dieu. J'ai râlé contre Dieu, j'ai râlé contre Freud, là, je râle contre
Duchamp.
Vous
reconnaissez bien. Ah oui. Ah oui.
C'est-à-dire il y a des gens qu'on appelle des incohérents, les artistes incohérents, qui, entre 1882 et 10 ans plus tard, ont fait des choses assez extravagantes. Ils ont notamment inventé le ready-made, un rideau de fiacre, un monochrome, toile totalement noire, etc. Et il y a un personnage qui a découvert dans une malle 17 œuvres de ces artistes-là. Il y aura donc un livre de moi qui s'appellera « Les anartistes » et qui montrera qui sont ces gens-là. C'est-à-dire qu'en gros, l'avant-garde du XXe siècle est une arrière-garde. Ce sera ma thèse. Il y aura un livre qui rassemblera toutes mes chroniques sur Macron, qui s'appellera Foutriquet. Foutriquet était le nom que les communards donnaient à Thiers. C'était l'un des sobriquets de Thiers, puisque un temps, quand il s'est agi de célébrer la Commune, Emmanuel Macron a dit que la République menacée s'était retranchée à Versailles. On ne peut pas mieux dire qu'on est Versaillais. Donc dans ces cas-là, Foutriquet, ça va, puis c'est un peu drôle. Ça se trouve aussi chez Jules Vallès, dans L'Insurgé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre livre ? Une nef des fous, qui raconte toutes les bêtises dont nous avons parlé, là, une par jour.
C'est un bon programme de lecture, là, pour les quelques jours, peut-être, de vacances.
Et puis, d'autres projets encore.
Bon, en tout cas, je vous remercie de les avoir partagés avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous, Michel Onfray, sur Europe 1 et CNews. Je remercie, évidemment, Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Je vous souhaite également à tous, évidemment, une belle année. Également à nos téléspectateurs et auditeurs. Merci de votre fidélité, véritablement, pour cette émission qui s'installe sur nos deux antennes. Et puis, à très bientôt.